Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Une rencontre aujourd'hui autour du voyage, du van, de la van life, qui est très tendance depuis quelques années ici en France ou même dans le monde. Pas mal de jeunes d'ailleurs ont découvert ça en Australie et ont ramené ça ici sur notre territoire. Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs donne la parole aux gens que je rencontre, des gens qui sont dans cette dynamique du mouvement et du voyage. Et on m'a dit, tiens, rencontre Laura. Laura qui vit une partie de l'année dans son van. Donc l'idée c'est vraiment de te découvrir, de te rencontrer à travers ce micro et cette émission. Donc Laura, on va peut-être revenir au début, avant de me parler de ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'intéresses à ce mode de vie ou de voyage, le van life? Comment est-ce que la van life est entrée dans ta vie?
Un peu par hasard en fait. J'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours aimé voyager et je voyageais déjà beaucoup avant le Covid. Mais comme tout le monde, j'ai dû rentrer à la maison pendant le Covid et j'y suis restée ensuite pendant 2 ans. Du moins pas à la maison, mais en tout cas sur place. Pendant 2 ans, j'ai plus voyagé. Et je me rendais compte que c'était de plus en plus compliqué d'organiser un voyage, de passer les frontières, de prendre l'avion, de prendre le bus, de devoir probablement réserver des hôtels ou des auberges de jeunesse. Et j'avais pas envie de dépendre en fait de tout ça, de toute cette industrie du tourisme pour voyager de nouveau. Du coup, un peu par hasard, je discutais avec une amie et sa sœur était en train de construire un van. Et là, je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Si j'ai envie de voyager et de dépendre que de moi-même et de plus dépendre de cette industrie du tourisme, en fait, le mieux, c'est d'avoir ma maison sur le dos. Donc, en février 2022, j'ai décidé de quitter Berlin, où je vivais en fait à ce moment-là depuis déjà 2 ans. Et je me suis dit, je rentre à la maison, j'achète un van, je construis ma petite maison sur roue et puis je pars avec pour voyager. Peu importe ensuite ce qu'il adviendra du Covid. Et bon, finalement, le Covid assez rapidement est parti, mais le projet était lancé, donc j'ai décidé de quand même le concrétiser.
Donc on va parler de cette étape-là, parce que construire son van, ça nécessite des compétences, ça a souvent aussi un coût, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc on parlera de cette étape-là, mais tu me parles du voyage, tu disais que tu aimais beaucoup voyager. Donc qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage et comment et par quoi tu as commencé?
J'ai commencé un peu, je pense, comme tout le monde avec mes parents. Mes parents ont toujours beaucoup aimé voyager et puis au moins une fois par an, on faisait un grand voyage avec eux et mon frère. Et en fait, assez naturellement ensuite, j'ai tout de suite plus ou moins compris que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et autour duquel j'avais envie de construire ma vie. Donc à partir du moment où j'ai pu être un peu plus âgée, j'ai commencé un peu à partir par moi-même, d'abord dans des voyages organisés, des colonies de vacances, ce genre de choses, mais à l'international quand même. Et ensuite, un peu avant le Covid, donc en 2019, j'ai voulu partir en Amérique du Sud. Et c'est un projet que j'ai toujours eu, que j'ai eu depuis des années, et pour lequel j'ai mis de côté pendant plusieurs années pour pouvoir partir. Et là, l'idée, c'était vraiment de voyager en sac à dos pendant 1 an ou 2. Mais c'était, je pense que le début d'un projet beaucoup plus grand de voyage à travers le monde, mais j'avais vraiment envie de commencer d'abord par le continent sud-américain.
Donc c'est vraiment tes parents qui ont semé en toi ces graines de voyageuse?
Je pense, ouais. Je pense parce que je me souviens très bien de ce premier voyage qui m'a vraiment marqué, c'était quand on était en Tanzanie. Et j'ai encore l'image en fait du coucher de soleil sur la savane. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait... c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que j'ai envie de voir tous les ans, ou tous les mois si c'est possible, mais en tout cas c'est ce genre de vue que j'ai envie d'avoir constamment dans ma vie et j'ai pas envie de me réveiller face à la même chambre tous les matins et face au même bâtiment, face à la même ville tous les jours en fait. C'est la nature, c'est l'ailleurs en fait, et ouais, ça m'a vraiment marqué. Je pense que c'est ça qui a vraiment, vraiment lancé cette envie de constamment découvrir d'autres paysages et de voyager en fait à travers le monde.
Mais alors, comment est-ce qu'on construit ça? Tu dis que ça devient une évidence pour toi, que tu vas mettre le voyage au cœur de ta vie personnelle et professionnelle. Donc là, comment est-ce qu'on rend le voyage viable? Parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est de trouver un mode de vie qui permette de voyager tout en étant quelque part rémunéré, non? Comment, je sais pas, dis-moi un peu. Comment tu vois les choses? Parce que tu es jeune, donc est-ce que tu as fait des études dans l'idée de pouvoir voyager ou parle-moi de cette partie-là de ton existence?
En fait, quand j'étais jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais voyager. Et on m'a souvent répondu, mais voyager, c'est pas un métier. Et du coup, à ce moment-là, je disais, j'aimerais bien faire un métier qui me permette de voyager. Et il faut dire que je me suis un peu perdue, parce qu'à la base, j'avais envie plus de faire journaliste, reporter, justement, dans cette idée du voyage et de pouvoir travailler en même temps. Finalement, de fil en aiguille, j'ai pas du tout fini par faire ce genre d'études. J'ai fait un peu de sociaux, j'ai fait un peu de communication, et j'ai fini à la fin par faire un master en management culturel pour organiser des événements culturels. Et ça me plaisait beaucoup de travailler dans ce domaine-là, parce que ça me faisait un peu voyager, mais en restant sur place, mais en rencontrant plutôt des artistes, des personnes, ce genre de choses. Et en fait, finalement, très rapidement, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un métier qui demande de rester sur place, surtout pour se construire un réseau. Donc malheureusement, ça n'allait pas trop avec le voyage. Et j'étais encore dans ce domaine-là, justement avant de partir en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, pour moi, l'idée, c'était vraiment de ne pas travailler du tout pendant un an ou deux, puisque j'avais mis suffisamment de côté pour me payer ce voyage-là, et en rentrant ensuite de reprendre une vie « normale », entre guillemets. Sauf qu'en fait, avec ce qui s'est passé avec le Covid, en partant avec mon van, à ce moment-là, je me suis dit « ok, là, je pars, mais sans retour ». Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà une micro-entreprise dans le domaine du graphisme, parce que puisque j'ai fait des études en communication, j'avais fait un stage à l'époque qui m'avait un petit peu lancé là-dedans. Et je m'étais dit, pourquoi pas toujours avoir cette petite rémunération régulière tous les mois. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même un bon coussin, on va dire, financier. Surtout comme j'ai toujours beaucoup bougé, beaucoup changé de ville, beaucoup changé de métier. C'était une bonne manière de quand même me rémunérer dans un entre-deux. Et là, je me suis dit, d'abord, je pars juste avec ça. En fait, je continue, mais je me lance à fond là-dedans. Et ça va devenir ma rémunération principale, sans en faire non plus un job à 35 heures semaine, mais en tout cas suffisamment juste pour que je retombe sur zéro à la fin de chaque mois, en fait, juste pour que ça rémunère mon voyage et ma vie, sans forcément avec la nécessité de mettre de côté.
Donc tu rejoins la famille des digital nomades, là?
C'est ça. Et en fait, l'année dernière, je me suis rendu compte que juste le graphisme, c'était peut-être pas suffisant, que c'était peut-être bien que je fasse autre chose, que je pense à faire autre chose. Et un peu par hasard aussi, j'ai pensé à donner des cours de français. C'est quelque chose qui m'avait toujours plu avant. Et en fait, j'ai trouvé une plateforme en ligne qui permet de donner des cours de français. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Elle nous met directement en relation avec les élèves, avec les étudiants. Et j'ai commencé ça l'année dernière un peu par hasard en me disant, j'essaye de voir ce que ça donne. Et en fait, ça me plaît énormément. Ça me plaît presque plus, ça me plaît plus maintenant que le graphisme. Et j'apprends un peu en même temps, en fait, parce que j'ai pas du tout étudié. J'ai pas appris, en fait, à donner des cours. J'ai pas non plus fait des études de français, ni des études d'anglais, ni appris quoi que ce soit sur la pédagogie. Donc, en fait, en parallèle de mes élèves qui apprennent le français, moi, j'apprends vraiment la pédagogie petit à petit. Et en fait, ça colle complètement avec mon rythme parce que je peux vraiment m'organiser comme je veux, donner les cours quand je veux. C'est très, très libre, très flexible et c'est super agréable, en fait. C'est vraiment humain, je trouve, comme métier, puisqu'on discute avec les gens, on rencontre des personnes formidables. Et du coup, ça me fait un peu voyager aussi, même en restant assise à l'arrière de mon van, finalement, avec toutes ces personnes non françaises, du coup, que je rencontre et avec lesquelles on parle français.
Mais donc, c'est possible aujourd'hui, grâce à Internet, d'enseigner le français sans avoir une licence de FLE, français langue étrangère, c'est ça?
En passant par cette plateforme, oui, c'est possible. Il y en a peut-être d'autres qui existent, mais en tout cas, à l'époque, donc l'année dernière, quand je regardais, c'était une des seules plateformes qui proposait cette possibilité-là, ouais.
Donc ça te permet vraiment de travailler de partout. Il suffit que tu aies une connexion Internet ou 5G et tu peux te poser, être présente en ligne et générer le modèle économique qui te permet de continuer à voyager.
Ouais, c'est ça. J'ai juste besoin d'électricité, forcément, et puis d'une connexion Internet. C'est pas très compliqué. Bon, ça dépend des endroits, mais la plupart du temps, ça se trouve assez facilement, ouais.
Tu disais que tu as bossé dans l'événementiel, tu as mis de l'argent de côté avant de partir. Ton projet, c'était de partir un ou deux ans en Amérique du Sud. Donc là, tu voulais partir en backpackers avec juste ton sac à dos. Donc est-ce qu'il y avait un but, un itinéraire, un projet derrière ça? Parce que tu me disais aussi que tu étais intéressé par tout ce qui était reportage à un moment donné. Donc voilà, tu pars en Amérique du Sud avec ton sac à dos. Quel est l'itinéraire et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas y faire?
Alors en fait, l'itinéraire, donc à l'époque, je partais avec mon ex-copain. Donc on était deux et on avait décidé en fait de faire un itinéraire on n'avait pas envie de tout prévoir en avance, mais on avait quand même envie de garder une certaine logique. Donc on s'était dit on part du sud et on va jusqu'au nord, tout simplement. Et on a commencé du coup en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Et notre but, c'était d'arriver jusqu'en Colombie. En passant du coup de manière assez logique ensuite par tous les pays qui étaient entre l'Argentine et la Colombie. Voilà, on n'avait pas un itinéraire très défini, on savait juste qu'en février, il fallait qu'on soit au Brésil pour le carnaval parce qu'on rejoignait un ami brésilien là-bas à ce moment-là. Mais disons que c'était la seule deadline qu'on avait. Et on avait envie d'être plutôt libre et d'aller un peu au gré des rencontres, au gré des opportunités. Et surtout, on avait envie de faire un peu ce slow travel, donc en voyageant lentement, en faisant du woofing, en faisant du workaway, de manière à vraiment rencontrer les locaux aussi, prendre le temps, découvrir la culture sur place, et pas en fait juste toutes les semaines être dans un autre bus, dans un autre hostel, et constamment bouger. Alors bon, on a quand même pas mal bougé au début, les trois premiers mois, on pensait ralentir un peu après, justement après le Brésil, et bon, finalement, c'est au Brésil qu'on est resté confiné trois mois. Avant de rentrer en France.
Donc là, quand vous vous déplacez en Amérique du Sud, c'est pas encore en van, hein, c'est avec les moyens de transport locaux, c'est ça ?
C'est ça. En Patagonie, beaucoup d'autostop, et puis sinon après, seulement des bus, quoi. Des bus tout le temps.
Et tu disais, donc l'itinéraire était donc assez géographique, hein, vous partiez du Sud pour monter vers le Nord, en faisant du woofing et du workaway. Donc ça, je veux bien que tu me parles, hein, de ce qu'est le woofing et de ce qu'est le workaway. Ça peut intéresser tous les jeunes qui cherchent un moyen de voyager, parce que c'est vrai que c'est un super outil pour pouvoir s'insérer dans un pays, dans une culture, tout en étant quelque part actif et en étant dans un partage de connaissances ou de compétences.
Alors le woofing, en fait, ça va plutôt être un réseau de fermes qui propose à des personnes de les héberger, de les nourrir. Pendant, généralement, c'est minimum 2 semaines, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois, voire plus. Et en échange, en fait, les personnes les aident, elles donnent un coup de main dans ces fermes. C'est généralement entre 4 et 5 heures de travail par jour, ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà, ça c'est à définir avec la ferme en question. Et puis voilà, en fait, c'est assez libre, donc la personne travaille pour ses fermes, selon ce qu'elle sait faire, selon ses compétences, selon les besoins de la ferme aussi. Et puis ensuite, en échange, elle peut rester et partager du temps avec les personnes qui habitent dans cette ferme. Et ça permet en fait non seulement de développer des compétences, ben, surtout manuelles, hein, forcément. Ça peut être une ferme, mais j'avais vu en Argentine qu'il y avait par exemple aussi beaucoup d'endroits où on pouvait s'occuper des chevaux, donc, ou des animaux. Donc ça dépend un petit peu de ce qui est proposé dans le pays. Il y avait aussi beaucoup de production viticole, par exemple, si on est plus intéressé par le vin. Voilà, c'est assez large. Et Workaway, ça fonctionne de la même manière, mais ça va plutôt être dans les villes, ça peut aussi être dans la nature, mais ça va être pour tout ce qui est autre activité que les fermes. Nous, par exemple, on a fait un Workaway à Valparaiso, au Chili. On est resté là-bas un mois et on aidait en fait dans une auberge de jeunesse. Donc on s'occupait de toutes les petites tâches dont ils ont besoin, préparer le déjeuner le matin, accueillir les gens, aller faire les courses, faire les draps, changer le drap, faire le ménage, voilà, ça dépendait. En fait, on avait un planning, ça dépendait des besoins et du planning et des autres personnes qui étaient aussi là en même temps que nous sur place. Et puis voilà, on s'organisait un petit peu comme ça, c'était très sympa. Et souvent, ça permet de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de voyageurs et surtout de partager du temps avec les locaux en fait.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc toi Laura, tu me disais au début de cette émission que le voyage, les graines du voyage ou de la voyageuse que tu es ont été semées par tes parents. Tu nous parlais de ce coucher de soleil en Tanzanie sur la steppe et la savane. Donc tu décides toi aussi de devenir voyageuse. Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage et qu'est-ce que ça t'apporte ?
Pour moi le voyage c'est la découverte du monde, des autres et d'autres cultures. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Je m'imagine pas voyager par exemple juste... toute seule, sans jamais aller à la rencontre des locaux. Ça, c'est quelque chose... Pour moi, c'est pas le voyage, en fait. C'est peut-être plus du tourisme, mais c'est pas du voyage. En fait, pour moi, le voyage, c'est vraiment prendre le temps de s'imprégner du pays dans lequel on est, de la langue qui est parlée dans le pays, de la culture de ce pays, et d'essayer au maximum, en fait, de comprendre un petit peu comment fonctionnent les gens dans ce pays, comment vivent les gens dans ce pays, et de partager un maximum de choses avec ces personnes. Ce que ça m'apporte, en fait, je pense que c'est une richesse qui est pas quantifiable. C'est une richesse qu'on peut pas calculer, mais c'est quelque chose qu'on aura toujours en nous et qui, petit à petit, va vraiment nous permettre de nous découvrir aussi nous-mêmes. Et je pense que c'est ça que j'ai toujours cherché à travers le voyage, c'est non seulement la découverte du monde, mais aussi la découverte de moi, parce que ça me permet en fait d'avoir beaucoup plus de temps, pour moi beaucoup plus d'espace, pour réfléchir à beaucoup de choses, et en fait la rencontre constante avec des gens qui vivent de manière parfois très éloignée de nous, me permet aussi petit à petit de plus savoir ce que je veux, de plus savoir qui je suis dans la vie, de plus savoir vers quoi je veux aller, et surtout vers quoi je veux pas aller. Et je pense que tout ça, en fait, cette réflexion un peu constante, en étant toujours obligée de me réadapter à l'endroit dans lequel je suis, aux personnes avec lesquelles je vis, pour moi, c'est vraiment un apprentissage, en fait, l'apprentissage de la vie. Et ça me permet d'avoir, en fait, toujours aussi une stimulation constante au niveau, forcément, du cerveau, mais ça me permet de jamais... me lasser, jamais m'ennuyer, parce qu'en fait je suis toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau, et ça pour moi c'est vraiment super important. J'ai l'impression que le monde, depuis que j'ai petite en fait, je me dis que le monde est tellement grand, qu'il y a tellement de richesses, qu'il y a tellement de choses à voir, à apprendre, à découvrir, que pour moi ça me paraissait impossible de pouvoir profiter au maximum de cette richesse en restant toujours sur place. Et finalement maintenant, en étant constamment dans le mouvement, en traversant, en voyageant à travers cette richesse, j'ai l'impression de petit à petit la toucher un peu plus du doigt, la découvrir, même si je sais que je découvrirai jamais tout, mais du moins de profiter d'une bonne partie, je pense, de ce que le monde a à nous offrir.
Et comment tu te positionnes par rapport au modèle de nos sociétés où quand on finit nos études, c'est le moment de chercher un boulot, trouver un compagnon, faire un enfant, une famille, avoir un chien. Donc là, tu es quelque part dans un modèle qui n'est pas le modèle standard.
Je pense complètement à l'encontre de ce modèle, en fait, clairement. Avoir une maison, avoir une famille, avoir un chien, avoir une carrière, on va dire, dans une entreprise à travers un boulot 35 heures semaine, j'ai pas du tout envie de ça, en fait. Et de toute façon, avec mon mode de vie de nomade, c'est clairement impossible à l'instant T. Après, c'est peut-être juste une phase. Sincèrement, j'en doute, parce que je me vois assez mal revenir dans une vie, on va dire, plus stable après avoir cette liberté. Et après avoir justement cette non-stabilité, finalement, dans ma vie, je pense que ce serait compliqué pour moi de revenir à une vie stable. Depuis petite, à mon avis, c'est un modèle, en fait, dans lequel j'ai pas vraiment envie d'être. Sauf que forcément, quand on finit nos études, comme tu l'as dit, c'est un petit peu la marche à suivre, normale. Donc on va pas trop se poser de questions. On va commencer à chercher un travail, peut-être qu'on l'a déjà trouvé à travers le stage qu'on a fait en fin d'études. Et ensuite, de manière assez classique, on se lance là-dedans, on prend un appart, ensuite peut-être qu'on rencontre quelqu'un, on va se mettre avec cette personne. Et de fil en aiguille, on en arrive très vite à, je dirais pas cocher toutes les cases, mais effectivement, on gagne de l'argent, on met de côté, ensuite pourquoi pas acheter un appart, une maison, pourquoi pas faire un enfant, pourquoi pas acheter un chien, comme tu dis. Et c'est pour ça, en fait, que je me dis depuis... que je suis vraiment seule, célibataire, je me concentre que sur mes projets et je vais complètement au gré de mes envies et je fais jamais de compromis, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est ce qui permet, je pense, du moins pour le moment, encore quand on se cherche et qu'on a peut-être pas encore trouvé 100% qui on est et ce qu'on veut, c'est ce qui permet, je pense, le plus en plus de savoir où sont les limites, où sont nos limites, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter et qui on est nous-mêmes dans la solitude, en fait, et dans le célibat, sans être toujours un petit peu en partie, être obligé de peut-être s'effacer pour garder l'autre auprès de soi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Laura, tu te définis aujourd'hui comme une nomade, tu as un van, donc tu t'es lancée dans l'aventure de la van life. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce qu'on aménage son van, par quoi on commence? Parce que je pense que là tu as répondu au rêve de beaucoup de gens qui ont cette envie aussi d'avoir un van et de l'aménager.
Alors on commence par énormément d'heures à réfléchir, je pense, avant de faire, il faut vraiment réfléchir. Moi je pense que j'ai passé plus d'heures à réfléchir, à regarder tout ce qui se faisait. Sur internet, YouTube, c'est une source exceptionnelle d'inspiration. Donc déjà, moi, j'ai commencé par regarder énormément de vidéos d'aménagement de van pour savoir un petit peu quel aménagement j'avais besoin, de quel aménagement j'avais envie, en fonction de mes besoins, en fonction de la taille aussi, forcément, du véhicule. Moi, j'ai un Kangoo, c'est quand même relativement petit. Je pense que c'est compliqué de trouver plus petit en termes de van. Donc forcément, ça impliquait beaucoup de contraintes de taille, en fait. Donc à partir de là, une fois qu'on a décidé un peu le véhicule qu'on veut, bien sûr l'aménagement qu'on veut, ça va être différent d'aménager un véhicule pour vivre dedans à l'année que pour voyager seulement en été, le week-end, par exemple.
Mais toi, t'en es où avec ton Kangoo? C'est à l'année ou c'est juste pour le week-end et l'été?
Non, non, moi c'est à l'année.
Dans un Kangoo?
Dans un Kangoo, ouais. Donc c'est pour ça que ça m'a demandé beaucoup de réflexion, parce qu'en fait, du coup, j'avais besoin de vivre dans ce Kangoo à l'année, donc autant par temps chaud que par temps froid, autant par temps pluvieux que par temps ensoleillé. Donc tout ça, en fait, ça impliquait déjà de réfléchir un petit peu à comment je pouvais aménager l'intérieur et l'extérieur, sans me sentir trop à l'étroit dedans, puisque forcément, en hiver, même si j'essaye d'aller vers les pays du sud, il n'empêche qu'il fait quand même plus frais, qu'il y a quand même de la pluie régulièrement. Donc je savais que j'allais passer du temps dedans. Mais également, l'extérieur, en fait, c'était aussi important, puisque tout simplement, ma cuisine, elle ne peut pas être à l'intérieur. J'ai pas la place de cuisiner à l'intérieur. Donc il fallait un peu que je réfléchisse à comment aménager tout ça. Et voilà, j'ai trouvé en fait beaucoup d'autres personnes finalement, mine de rien, qui ont aménagé un Kangoo avant moi sur YouTube. Et j'ai pris un petit peu de tout ça. J'ai fait un peu un mix en fait, des choses qui me convenaient moins. J'avais besoin, pour moi c'était important d'avoir un bureau à l'intérieur, puisque je travaille justement depuis mon van. Donc ça pour moi c'était quelque chose de très important. Être à l'aise quand je travaille, quand même, c'est quelque chose, surtout quand c'est plusieurs heures par jour, c'était quelque chose qui était indispensable. Je voulais ma cuisine dehors, tout simplement parce que c'est plus pratique. Dedans, j'aurais pas trop eu la place. Et puis, en plus de ça, cuisiner dehors, c'est quand même super chouette. Ça permet de faire beaucoup de rencontres aussi. Les gens viennent souvent nous voir quand on cuisine. C'est un peu le moment où, justement, on va prendre un peu l'apéro avec les gens qui sont autour de nous, sur le parking, ou tout simplement des curieux qui viennent nous voir et nous demander ce qu'on fait là. Donc ça, pour moi, c'était vraiment indispensable. Et j'avais aussi envie d'avoir un grand lit, mine de rien. C'est pas parce que je suis seule que je vais pas avoir un lit de place. Et en fait, j'ai trouvé du coup le principe du lit peigne qui se referme sur lui. Donc ça fait une banquette, un lit, une place quand je suis en mode route, comme j'appelle ça. Donc je peux m'asseoir aussi dessus pour travailler. Et puis en fait, quand je l'ouvre, tous les soirs, du coup, ça me fait un lit de place. Et je peux même accueillir quelqu'un avec moi dans le van. Donc on peut même dormir à deux. Dans mon Kangoo, je peux voyager avec quelqu'un si j'en ai envie.
Laura, tu as quel âge ?
J'ai 28 ans.
Et tes parents, on pense quoi de cette mode de vie-là un peu particulier, de savoir que leur fille vit dans un Kangoo ?
Ils me soutiennent quand même beaucoup dans ce projet. Ils m'ont toujours soutenue depuis le début. C'est pas facile, je pense, pour eux, clairement, de savoir que leur fille voyage en Europe depuis 2 ans sans... autres projets que de voyager, en fait, clairement. Mais étonnamment, je sais que ça peut être assez difficile hein, d'accepter ça pour des parents, puisque tous les parents, en fait, ils ont des attentes pour leurs enfants. Et je pense que rares sont les parents qui doivent avoir comme attente le fait que leur enfant voyage et ne pense pas à un projet de carrière, et ne pense pas à investir, et ne pense pas à fonder une famille. Donc j'ai conscience que ça doit être compliqué pour eux. Mais on en parle régulièrement, en fait, quand je rentre, j'essaye d'aborder la discussion avec eux, justement pour leur montrer que je suis heureuse. Et pour moi, ça, je pense que c'est plus important, parce que tant qu'ils me voient heureuse, ils continuent à me soutenir dans ce projet et continuent à être heureux pour moi, même si, encore une fois, je pense bien qu'ils avaient espéré une autre vie pour moi. Le plus important, en fait, c'est que je m'en sorte financièrement et que je sois épanouie. Et comme ils voient que c'est le cas, je pense que ça leur permet vraiment d'accepter la situation au mieux.
Qu'est-ce que tu pourrais partager sur la vie en van? Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça t'a appris de vivre dans un petit espace qu'est ton Congo?
Ça m'a appris déjà à vivre dans un très petit espace et à me rendre compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose, franchement. Le minimum, en fait, le nécessaire, c'est suffisant pour être heureux. Et au contraire, plus on a, plus on accumule, moins je pense qu'on est heureux et moins on est libre. Parce qu'on a toujours un peu ce poids des choses qui nous retient. Quand on n'a pas grand-chose, quand on n'a pas grand-chose à perdre, ben, en fait, déjà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas la peur aussi de perdre tout ça. Donc ça enlève quand même beaucoup de poids. Ça donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté. De mouvement, mais aussi tout simplement dans notre tête, en fait, on est beaucoup plus léger dans notre esprit parce qu'on n'a pas grand chose qui nous retient. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Après, ça m'a aussi énormément appris à m'adapter, en fait, à m'adapter à toute situation, à accepter aussi beaucoup de situations que j'avais pas prévues, que j'avais pas envie de vivre à l'instant T, mais qui étaient là et qui allait de toute façon se passer. Donc si je les accompagnais pas à travers cette acceptation, de toute façon j'allais passer un mauvais moment. Donc autant les accueillir, en fait. Et ça, c'est aussi important, parce que finalement c'est un apprentissage qu'on n'a pas seulement besoin en voyage, mais dans la vie de manière générale. Et cette sorte de résilience et de se dire, bon bah, de toute façon, il va se passer ce qui va se passer. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Autant vivre le truc à fond et penser que tout simplement, chaque mauvaise situation, chaque situation un peu inconfortable a une fin et se résout souvent par quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui va être souvent une belle surprise. En fait, je pense que les moments qui ont été les plus compliqués là depuis que je suis partie, c'est les moments où j'ai eu des imprévus. Notamment mécanique d'ailleurs, et c'est ces moments-là où on se sent un peu, je dirais pas perdu, mais complètement impuissant, parce qu'on peut pas faire grand-chose, et là, on est obligé de se fier à notre bonne étoile et un peu à l'aide des gens, en fait. Et on se rend compte à quel point la vie est bien faite, et à quel point les gens sont bienveillants, et à quel point les gens ont envie de nous aider. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de super important, parce que moi, ça m'a vraiment, vraiment redonné foi. J'ai pas envie de dire en l'être humain, j'avais pas non plus complètement perdu foi dans l'être humain, mais je me rendais pas compte que les gens étaient si bienveillants, si généreux. Et surtout, j'ai l'impression qu'en fait, la plupart des gens sont bons. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on a tendance à oublier quand on voyage pas. Parce que vu qu'on est moins dans ce genre de situation, qui nous force en fait à nous remettre à l'autre et à accepter l'aide de l'autre, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont prêts à aider. Et on part du principe qu'en fait, les gens vont plutôt être dangereux, vont plutôt être mauvais, vont plutôt être négatifs. Et en fait, vraiment, depuis que je voyage, pour moi, c'est du 95% de gens positifs et 5% de gens négatifs. Et encore, j'ai fait aucune mauvaise rencontre, en fait. Donc, je voudrais bien dire 100% zéro, mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop naïf. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose dont je suis très heureuse, en fait, de me rendre compte depuis que je voyage. C'est à quel point faut pas avoir peur, et tout se passe bien, et les gens sont là, ils sont présents, et les gens sont bien, quoi. Les gens sont bons, et ça, c'est agréable.
C'est bien de se le rappeler, ouais. C'est vrai que c'est une des leçons du voyage, hein, de se rendre compte qu'on peut compter les uns sur les autres, et que les rencontres sont souvent très belles. Et ce qui va rester, c'est une rencontre plus qu'un paysage.
Ouais, complètement. En fait, le paysage, je dis pas, hein, c'est super important. Moi, j'adore la nature. J'adore, bien sûr, me réveiller face à un super océan en plein milieu de montagne, avec un super ciel bleu, un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, peu importe. Mais tout ça, c'est des souvenirs, en fait, qui vont passer et qui vont juste s'accumuler parmi d'autres choses très, très belles qu'on a vues. Alors qu'une rencontre, ça va vraiment marquer au plus profond de soi. Ça va marquer non seulement le cerveau, enfin la tête en termes d'image, mais surtout ça va nous marquer, ça va toucher notre cœur, en fait. Et ça, c'est quelque chose de super important, parce que y a parfois des petites rencontres qui vont être faites seulement au détour d'un chemin pendant une heure ou deux, mais ce qu'on va partager avec la personne, ce qu'on va échanger en fait avec cette personne, c'est quelque chose qui va vraiment vraiment nous toucher et qui va rester en nous pour toujours, parce que même parfois des courtes rencontres peuvent nous changer, ou peuvent changer juste notre manière de voir le monde, notre manière de nous voir nous-mêmes, ou notre manière de penser, de manière très très impactante. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de super, en fait, cette rencontre constante qu'on a moins, je trouve, aussi dans une vie sédentaire, parce qu'on a tendance à toujours un peu aller avec les mêmes personnes, rencontrer le même type de personnes aussi. Et pour le coup, ce qui est super en voyage, c'est qu'on choisit pas qui on rencontre, on choisit pas vraiment la personne vers laquelle on va, c'est en plus souvent même les autres qui viennent vers nous. Donc ça nous permet de sortir beaucoup plus un peu de cette zone de confort social qu'on a, et je pense d'apprendre beaucoup plus des autres que quand on a tendance à rester toujours un petit peu dans le même groupe social. Et encore une fois, je voudrais vraiment revenir sur ça, il y a énormément de gens qui sont bienveillants sur cette terre autour de nous et qui seront toujours là pour nous aider en cas de besoin. Et il faut croire en soi aussi, mais aux autres bien sûr, mais en soi, si on est sûr de ce qu'on veut faire et si c'est vraiment un projet qui nous appelle, de toute façon il y aura pas de problème, il n'y aura pas de barrière, on arrivera à les faire sauter si on est vraiment motivé et si c'est vraiment la voie qui est faite pour nous.
Laura, merci à toi, merci beaucoup.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.